Mes chers auditeurs, bonsoir. Dans le cadre de ces chroniques algériennes, nous avons eu souvent à parler de la possibilité ou des tentatives du peuple algérien d'organiser la résistance face aux colonisateurs et quels sont les moyens qu'il a mis en œuvre pour mener à bien cette résistance. On a eu à évoquer la situation très dure qui a suivi l'agression française en 1830, la résistance algérienne à travers les années, et finalement pour arriver à un mouvement national qui l'a amené à la libération. Mais il est un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui de la tentative de réformer la société après quelques 70 ans de colonisation, d'occupation, donc de luttes incessantes et également de tentatives de liquidation du peuple algérien. On se pose très souvent la question, pourquoi un mouvement est né en Algérie sous le nom de réformisme, al-islah, alors que dans le même temps, au Moyen-Orient, ce mouvement, on l'appelait la renaissance al-Nahda. Y a-t-il une différence entre les deux mouvements? Est-ce quelque chose de spécifique à l'Algérie, étant donné sa situation tout à fait particulière à ce moment-là dans le monde arabe? C'est ce que je vais essayer de développer dans cette chronique. Il faudrait peut-être d'abord commencer par les spécificités de la colonisation française en Algérie. L'on peut distinguer deux phases. La première, c'est celle de l'agression elle-même, et qui est pratiquement assez courte. C'est une phase qui dure à partir du moment où commencent les opérations militaires jusqu'à la signature de la convention de remise de la ville d'Alger aux autorités coloniales. Donc c'est une période qui a duré une vingtaine de jours. Et vient alors ensuite l'occupation de l'Algérie et qui va durer plus d'un siècle puisque l'occupation effective du territoire algérien a été au-delà de 1930, c'est-à-dire au moment où les autorités coloniales en Algérie festoyaient pour fêter le centenaire de la colonisation, l'autorité française n'était pas encore établie sur tout le territoire algérien. Les objectifs que s'était fixé le gouvernement français à ce moment-là, en 1830, c'était des objectifs avoués, c'était donner une leçon à ce qu'ils appellent les Turcs, chasser les Turcs et remettre le territoire à ses possesseurs légitimes. Mais les buts inavoués, on les connaît, c'est établir une colonie de peuplement en Algérie, ce qui suppose une autre réalité différente de celle que fixent les textes et les déclarations des officiels français à ce moment-là. Pour réaliser cela, une politique de liquidation systématique a été élaborée, a été pratiquée, et chacun se rappelle les différentes tribus qui ont été massacrées au fur et à mesure de l'avancement des troupes françaises à travers le territoire national. Cette liquidation, ces massacres, ce génocide, parce qu'il faut l'appeler par son nom, ce génocide visait principalement un seul objectif, c'était celui de vider l'Algérie de son élément humain pour pouvoir le peupler par une population de colons qui s'approprierait le territoire. Même vis-à-vis des autorités et des puissances étrangères, la France aurait bien voulu se trouver face à des partenaires pour leur déclarer que l'Algérie était devenue un terra nullius, c'est-à-dire une terre inhabitée, et donc elle pouvait y faire ce que bon lui semblait. Malheureusement pour le colonialisme, et heureusement pour le peuple algérien, et grâce à la lutte héroïque du peuple algérien, cette liquidation, quelle qu'ait été son échelle, quelle qu'ait été son intensité, n'était qu'une liquidation partielle et parfois assez sélective, puisque la partie de la population qui a été, disons, dans la ligne de mire et dans la ligne de tir des armées françaises, des armées coloniales, était tout ce qui pouvait penser, tout ce qui pouvait avoir un effet sur la société et donc pouvait être considéré comme guide. C'est dire que cette tentative s'est traduite par, à la longue, une autre approche. Puisque la liquidation définitive et finale était impossible, il fallait une autre approche, et c'était celle de la tentative de domestication, et la domestication de non seulement de tout l'élément humain en bloc en général, mais surtout de tout ce qui restait de notable ou de religieux, d'imams qui pouvaient avoir une certaine influence dans la société. Cela s'est traduit dans les faits par l'apparition de toute une classe d'Algériens qui, sous l'autorité et sous le contrôle colonial, abordaient les problèmes de la religion dans le sens d'une banalisation, d'une certaine compréhension liée à la lettre du texte, ce qui fait que la société algérienne, ayant perdu ses grands guides, s'est retrouvée à croire en ces nouveaux guides, si l'on veut, en ces nouveaux dirigeants, en ces nouveaux notables, qui ne faisait qu'appliquer une politique. Ceci explique, dans le fond, le mouvement qui est né au début du siècle sous le vocable le réformisme. Quelle est la différence entre le réformisme tel que compris en Algérie, tel que pratiqué en Algérie, et l'autre vocable, le Nahda, la Renaissance, qui avait cours dans les pays arabes, surtout depuis le début du XIXe siècle. Là, il faut peut-être rappeler que au moment où se met en place ce mouvement de renaissance dans le monde arabe, l'Algérie devient colonie. Ce qui la soustrait à tout un mouvement intellectuel, à tout un renouveau dans la pensée, et ce qui la met entre parenthèses et la fait uniquement s'occuper de faire face à l'ennemi nouveau qui n'est plus l'ignorance, qui n'est plus le sous-développement ou la tentative de sortir ou de réaliser un renouveau économique, mais plutôt faire face à un ennemi qui avait décidé de l'exterminer. Donc, après quelque 70 ans de colonisation, les efforts de la colonisation ont commencé à apporter leurs fruits et la société algérienne était dénaturée, était déviée de ses aspirations et de ses objectifs. C'est pourquoi il fallait d'abord commencer par réformer la société. La réformer en essayant de redonner à la religion sa véritable place dans la société, mais également de libérer la religion de tout ce que cette classe de dirigeants et de religieux qui avait été formée à l'école de la colonisation ou qui a collaboré d'une façon directe ou indirecte à la réalisation de la politique coloniale, il fallait absolument que la société et la religion en elle-même se libèrent de tout ce qui avait été ajouté comme interprétation ou autre et dénaturant un peu la compréhension réelle et la compréhension normale de la religion. Quant à la Renaissance, elle suppose que la société n'avait pas besoin d'être réformée. C'est ce qui apparaît dans l'activité des chantres de la Renaissance au Moyen-Orient et qui, en partant de situations objectives et de situations politiques, le Moyen-Orient n'était pas encore colonisé, et même quand il le sera, ce ne seront que des protectorats qui n'auront pas le même caractère que la colonisation en Algérie. C'est, à mon sens, le point fondamental sur lequel se base toute l'action des Algériens au début du siècle pour essayer de préparer la société algérienne à devenir une société politique, c'est-à-dire une société organisée, pouvant avoir un projet à long terme, un projet de société, et œuvrant à le réaliser. C'est ce que fera le mouvement national à partir de la fin de la Première Guerre mondiale et au moment où, fort des leçons d'une certaine action réformatrice, le mouvement a pu s'ancrer dans les esprits et donner aux Algériens l'énergie nécessaire et les directives aussi nécessaires pour orienter leur action vers la libération. En conclusion, il fallait donc orienter la société algérienne pour qu'elle tourne le dos à toutes les tentatives qui se sont produites depuis le début de la colonisation et qui ont cherché non seulement à vider le pays de sa substance matérielle, c'est-à-dire cette politique d'extermination à outrance, vider le pays de sa substance intellectuelle, c'est-à-dire bannir le plus souvent, quand ce n'est pas la liquidation, quand ce n'est pas l'extermination, bannir ses potentialités intellectuelles et donc faire en sorte que le peuple algérien puisse retrouver une certaine confiance sous la direction d'Algériens honnêtes, d'Algériens intègres, pouvant le guider vers le salut et donc vers la liberté et l'indépendance. Cette opération que l'on appelle le réformisme n'était qu'une phase préparatoire du mouvement national et toute étude du mouvement national ne peut pas taire, ne peut pas faire passer inaperçue cette période que constitue la période du début de ce siècle, parce que c'est une période très très riche en enseignements pour tout ce qui se produira à partir de 1920 et surtout dans le cadre du mouvement national. Le mouvement national lui-même gardera certaines traces de cette richesse, de cette effervescence aussi qui a présidé le début du siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale.